VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 août 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington au sommaire ce soir. En Angola, les élections générales se sont tenues et permettront de connaître le successeur de José Eduardo dos Santos. Rendez-vous manqué au Nigeria, le conseil des ministres n'a pas eu lieu. Le président Muhammadu Buhari travaillant depuis sa maison. Le Tchad a décidé de fermer l'ambassade du Qatar à N'Djamena et intimé l'ordre à son personnel de quitter le pays dans 10 jours. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pinault pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Quelques 9,3 millions d'Angolais ont voté aujourd'hui pour des élections générales dont l'enjeu principal est le choix du parti qui va désigner le successeur du président José Eduardo dos Santos après un règne de 38 ans. Le MPLA est donné favori. Le point avec Abdourahmane Dia.
Au pouvoir depuis 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola doit conserver, sauf coup de théâtre, sa majorité absolue au Parlement et installer l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, au fauteuil présidentiel pour remplacer Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite. Dès les premières heures, les électeurs se sont pressés dans les bureaux de vote pour ce scrutin qui a pris fin à 17h GMT. Monsieur dos Santos, bientôt 75 ans, a voté en début de matinée dans une école du centre de la capitale. Très confiant, son très probable successeur l'a imité une heure après dans un autre bureau de Luanda. « Je suis serein, je vais rester calmement chez moi en attendant que mes collègues du parti m'informent des résultats », a déclaré João Lourenço. Isaias Samakuva, le chef de l'UNITA, le principal parti d'opposition, a lui aussi voté avant d'appeler les électeurs à voter en conscience pour la démocratie.
Au Mali, le gouverneur de la région de Kidal est de retour, un retour qui a été possible grâce à la coordination des mouvements de la Zawad, CME, qui contrôle la ville de Kidal. La CMA a aussi accepté de signer avec la plateforme une trêve sur le terrain. Ce mercredi, dès son arrivée à Kidal, le gouverneur a été conduit dans la ville sans aucune difficulté. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
Lors de sa conférence de presse du 14 août dernier, la CMA avait promis et juré la main sur le cœur que le gouverneur de Kidal peut retourner à Kidal sans problème. C'est désormais chose faite. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, a été accueilli ce mercredi matin à l'aéroport de Kidal avant d'être conduit à l'intérieur de la ville. Il a eu, après une série de rencontres avec les populations, une partie de l'administration scolaire qui est sur place. Après le déjeuner, il a pris les mêmes exercices avec les chefs de fraction et autres chefs coutumiers de la région. Le gouverneur que nous avons eu au téléphone dit qu'il va rester une semaine à Kidal avant de revenir à Gao faire ses bagages. Ce retour a été possible grâce à la coordination des mouvements de l'Azawad CMA qui contrôle actuellement la ville de Kidal. La CMA a aussi accepté de signer avec la plateforme une trêve sur le terrain. Ce retour du gouverneur va faciliter le retour de l'administration dans la ville de Kidal. Car après le gouverneur, il y aura les FAMA, les combattants du MOC et très prochainement certains combattants de la plateforme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Rendez-vous manqué au Nigeria. Le conseil des ministres qui devait se tenir ce mercredi pour la première fois après le retour du président Muhammadu Buhari a été annulé. Buhari est rentré au pays après un congé maladie de plus de 3 mois. Bagassi Koura.
Le communiqué de la présidence qui annonce l'annulation du conseil des ministres indique que M. Buhari recevra à la place un rapport sur une enquête menée sur la corruption. Le président, qui a repris officiellement ses fonctions lundi, après avoir délégué ses pouvoirs à son vice-président Yemi Osinbajo pendant plus de 100 jours, a travaillé depuis la maison selon ses proches. Évitant d'évoquer son état de santé fragile, le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a expliqué à l'AFP que M. Buhari ne pouvait pas se rendre à son bureau car des rongeurs avaient envahi les lieux pendant son absence. Le chef de l'État a toutefois reçu ce mardi les responsables de la sécurité. Le président de 74 ans a été absent du Nigeria 2 fois cette année, à chaque fois pour suivre à Londres un traitement médical dont on ignore la nature.
Toujours au Nigeria, la justice a ordonné mardi la confiscation à titre provisoire de 4 propriétés d'une valeur de 7 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Dizani Alison Matweke, que les juges soupçonnent de provenir des détournements massifs de fonds publics. Au moins 4 membres d'un comité de vigilance ont été tués hier soir dans un attentat suicide dans une localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Composé des civils qui livrent des renseignements aux forces gouvernementales pour lutter contre Boko Haram, les comités de vigilance au Cameroun sont particulièrement ciblés par les djihadistes. La région de l'extrême nord du pays est confrontée depuis plusieurs semaines à une résurgence d'attaques attribuées à Boko Haram après des mois de relative accalmie. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a procédé à un léger réajustement de son gouvernement qui voit l'arrivée des 4 nouveaux ministres parmi lesquels son gendre. Le gouvernement passe de 38 à 35 membres et reste dirigé par Clément Mwamba, 73 ans, reconduit lundi par un décret après avoir démissionné jeudi avec toute son équipe. Les ministères clés des Finances, de la Défense, de l'Intérieur, du Plan ou encore des Grands Travaux ne changent pas de titulaire. Hugues Nguele Londele, gendre du président et maire de Brazzaville depuis 2003, devient ministre des Sports. Le Tchad a fermé l'ambassade du Qatar en N'Djamena et a donné 10 jours à son personnel pour quitter le pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
N'Djamena reproche à Doha son implication dans les tentatives de déstabilisation du Tchad à partir de la Libye. Les autorités tchadiennes disent agir ainsi pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région. Un communiqué indique que l'ambassadeur et le personnel diplomatique doivent quitter le territoire dans un délai maximum de 10 jours. Le Tchad a rappelé son ambassadeur au Qatar en juin, tout comme le Sénégal et la Mauritanie. Bien avant, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Yémen et l'Égypte ont rompu leurs relations avec Doha, l'accusant de soutenir le terrorisme.
Le député tanzanien Tundu Lissu, numéro 2 de l'opposition au Parlement, a été arrêté par les autorités pour insulte au chef de l'État, John Magufuli, après avoir révélé la saisie au Canada d'un avion commercial acheté par la Tanzanie. Monsieur Lissu avait assuré vendredi qu'un bombardier acheté par le gouvernement pour la compagnie aérienne nationale Air Tanzania était retenu au Canada en raison d'un litige avec une société canadienne qui réclame 38 millions de dollars à la Tanzanie. L'Égypte a critiqué mercredi la décision des États-Unis de réduire une aide financière et de geler une assistance militaire en qualifiant cette décision d'erreur de jugement dans la relation stratégique entre les deux pays alliés. Parallèlement, une rencontre prévue mercredi au Caire entre Jared Kushner, le gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump, et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry a été annulée sans explication. L'aide militaire américaine à l'Égypte est évaluée à près de 1,3 milliard de dollars par an.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a défendu avec vigueur hier soir sa réaction après les incidents de Charlottesville lors d'un discours devant des milliers de partisans enthousiastes à Phoenix, tout en lançant de nouvelles salves contre les médias et les élites. Des violences avaient éclaté entre militants d'extrême droite et contre-manifestants, et une jeune manifestante avait été tuée lorsqu'un sympathisant nazi avait foncé dans la foule avec sa voiture. Le chef du Pentagone, James Mattis, a évoqué mercredi avec les responsables turcs le soutien américain aux milices kurdes et syriennes. Elles sont considérées comme terroristes par la Turquie et la prochaine tenue d'un référendum dans le Kurdistan d'Irak inquiète Washington et Ankara. La Turquie, membre de l'OTAN, reproche aux États-Unis de soutenir les unités de protection du peuple kurde, fer de lance de la lutte contre le groupe État islamique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé aujourd'hui devant le président russe Vladimir Poutine le renforcement de la présence iranienne en Syrie en la qualifiant de menace pour le monde entier. La Russie est avec l'Iran l'un des principaux alliés du régime de Damas et a déclenché en septembre 2015 une intervention militaire en soutien aux forces du président Bachar al-Assad. Israël et Iran s'accusent mutuellement de représenter une menace pour la stabilité au Moyen-Orient. L'ex-procureur général du Venezuela, Luisa Ortega, a dénoncé la mort du droit dans son pays lors d'une réunion du Mercosur mercredi à Brasilia, où elle a dit détenir beaucoup de preuves de la corruption du président vénézuélien Nicolas Maduro. Arrivé tard mardi en provenance de Colombie, première étape de sa fuite du Venezuela, Madame Ortega réclame l'arrestation de elle est menacée de mort. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le groupe chinois Sinohydro compte construire 3 nouvelles centrales hydroélectriques en Côte d'Ivoire après l'achèvement en octobre prochain du barrage de Soubré. La capacité combinée des 3 barrages atteindrait jusqu'à 500 MW, s'ajoutant aux 275 de Soubré, édifiés au coût de 592 millions de dollars sur le fleuve Sassandra. Il s'agit de l'un des projets phares du président Alassane Ouattara qui a promis de renforcer l'approvisionnement en énergie électrique du pays. La multinationale Glencore annonce le licenciement de près de 5000 employés de sa mine Mopani en Zambie en raison de perturbations persistantes sur l'approvisionnement en électricité. Glencore et First Quantum Minerals n'ont pas accepté la hausse du prix de l'électricité introduite en janvier. Les autorités ont ainsi réduit la fourniture de leur mine de cuivre en énergie électrique. La Banque centrale du Nigeria va émettre des bons de trésor pour 193,14 milliards de naira, environ 614 millions de dollars, le 30 août. L'objectif est surtout d'aider le gouvernement à financer son déficit budgétaire. Le pays, premier producteur de pétrole en Afrique, tire 70% de ses revenus des exportations de brut, mais est confronté depuis quelque temps à la forte chute des prix du pétrole sur le marché international.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'Afro-Basket Dames qui se poursuit au Mali.
Cinquième et dernière journée à Bamako, l'Angola a battu 96-58 la Centrafrique dans le groupe A. À suivre Côte d'Ivoire, Tunisie et Mali-Cameroun dans le groupe B. Le choc à 20h45 temps universel entre le Sénégal et le Nigeria. On retrouve sur place Amdi Nsi pour VOA Afrique.
L'Afrobasket féminin bat son plein pour le compte de la cinquième et dernière journée de la première phase. La RDC a fini de battre la Guinée sur le score de 84-37. Pour sa part, l'Égypte a dominé le Mozambique, score de la rencontre 71-30. Le dernier match de cette poule B opposera le Sénégal au Nigeria. D'ailleurs, c'est le match choc de cette journée car cette rencontre ressemble à une finale avant la lettre puisque les deux formations ont jusqu'ici réalisé un parcours sans faute. L'enjeu de ce match donc sera la première place du groupe B. Le duel a déjà commencé entre les deux équipes puisque une bagarre a éclaté entre les joueuses à l'entraînement. Donc les retrouvailles entre Sénégalaises et Nigérianes risquent d'être palpitantes. Mais auparavant, les amateurs du bal au panier pourront suivre le match Tunisie-Côte d'Ivoire et Mali-Cameroun. Bamako, Amédine Nsi, VOA Afrique.
Barrage retour de la Ligue des Champions.
Liverpool joue à domicile son match de barrage. Retour des qualifications pour la phase de poule des Ligues des Champions. Après avoir gagné à Hoffenheim 2-1 lors du match aller, le Sporting Portugal avait été tenu en échec à l'aller par le JTEA Bucarest 0-0. L'APOEL Nicosie l'avait emporté à domicile 2-0 et se déplace chez le Slavia de Prague. Le FC Copenhague devra remonter 1 après sa défaite en Azerbaïdjan face à Karabakh. Et puis enfin, le CSKA Moscou qui accueille les Young Boys de Berne après l'avoir emporté en Suisse 1-0. On rappelle hier la qualification du Celtic Glasgow, de l'Olympiakos, de Maribor, de Naples et du FC Séville.
Wayne Rooney tire sa révérence avec la sélection anglaise, Nicolas.
Wayne Rooney veut désormais se concentrer sur son nouveau club Everton. Après 119 sélections, le meilleur buteur de la sélection anglaise avec 53 buts raccroche donc avec l'équipe nationale.
Et puis Neymar engage une procédure judiciaire contre le FC Barcelone.
Neymar a fait savoir ce mercredi qu'il allait initier une procédure judiciaire contre le FC Barcelone, son ancien club, pour réclamer une prime non versée. On rappelle que l'action du Brésilien intervient après le dépôt d'une plainte du Barça contre lui.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lydon. Cap à présent au dossier du jour et on commence par l'Angola où quelque 9,3 millions d'Angolais étaient appelés aux urnes dans des élections générales. Il y a 6 listes électorales dans la course. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola ou MPLR est donné largement favori. Après 38 ans au pouvoir, le président Eduardo Dos Santos a décidé de prendre sa retraite. Sur les enjeux du scrutin, Idriss Fall a joint à Luanda Chiona Casimiro, un ancien journaliste.
Le principal enjeu, c'est le remplacement du président José Eduardo Dos Santos, qui ne va pas se représenter. Il a opté de mettre fin donc à sa longue carrière de 38 années successives à la tête de l'État angolais. Maintenant, c'est l'occasion de les remplacer par les 6 candidats en présence. Cet enjeu représente beaucoup de choses sur le remplacement d'un vétéran en chef d'État, le remplacement d'une génération qui a participé à la Ligue de libération contre le colonialisme portugais et le remplacement d'une figure qui avait l'importance stratégique sur le plan de la région, sur le plan du continent africain et même sur le plan international dans la mesure où son pays, l'Angola, un des grands producteurs du pétrole, le deuxième producteur du pétrole au niveau mondial et le premier partenaire commercial de la Chine.
Et on dit que son dauphin, l'ancien ministre de la Défense, est donné favori, notamment le MPLA.
Effectivement, il est favori, rien que par l'importance de la fortune des moyens. Ils ont comme élément défavorable une l'usure du pouvoir, un vide un peu du discours politique et l'échec le plus économique et social. Mais ils ont gardé cet atout de la maîtrise du pouvoir, de la maîtrise des mécanismes du pouvoir et d'énormes moyens et qu'ils ont exhibé pendant la campagne sans la moindre comparaison avec les autres concurrents. L'image de la lutte entre Goliath et David.
Les autres concurrents, c'est l'UNITA et la coalition CASACE.
L'UNITA et la coalition CASACE qui ont fait une démonstration aussi, popularité manifeste, soit dans les zones traditionnelles comme l'UNITA, dans le centre du pays, et même à Luanda, et puis la CASACE dans presque tous les centres urbains, surtout à Luanda. Et avec l'effet surtout la récupération du jeune électorat, évidemment, est nettement assez favorable à la coalition CASACE, que mène un ancien dissident de l'UNITA, qui fut déjà assez charismatique même à sein de l'UNITA, qui est Abel Chivukuvuku, qui fut aussi dans les vieux temps un représentant de l'UNITA là aux États-Unis.
Tiana Casimiro, un ancien journaliste à Luanda.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, l'interdiction de fumer dans les lieux publics entre en vigueur ce samedi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale met ainsi en vigueur une loi votée en 2014 dont le décret d'application date de 2016. Parallèlement, le gouvernement mettra en circulation de nouveaux formats de paquets de cigarettes déjà présentés hier au public. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar un militant anti-tabac, le docteur Abdulaziz Kazé.
L'industrie du tabac dans les allées du pouvoir a bloqué et empêché l'application de la loi. Le deuxième problème, qui est la taxation, aucun des prix du tabac n'a été augmenté. Le troisième problème, c'est la publicité, la promotion et le parrainage. Maintenant, pour ce qui est de l'interdiction de fumer en lieu public, rien n'a été fait. L'idéal, c'est bien sûr de former les policiers, de former les gendarmes, de former le ministère de l'Intérieur et l'administration territoriale dans ces différents démembrements.
Est-ce que vous pensez que c'est facile d'appliquer cette loi connaissant le comportement des Sénégalais?
Si une autorité administrative laisse les individus à leur bon vouloir, il se passera rien. Si par contre, il y a une application effective en utilisant les canaux, je ne dirais pas de répression, mais simplement d'application de la loi, les choses changeraient, c'est tout.
Est-ce que la loi elle-même est-elle dissuasive?
Il y a des dispositions qui prennent en compte la répression de toutes les violations à la loi. On charge pour l'autorité administrative d'appliquer ces dispositions de la loi.
Que risquent ceux qui ne respecteraient pas cette loi?
Ceux qui sont dans les études s'exposent à payer une amende. Et s'ils ne veulent pas payer l'amende, ça se perd. Entre les mains de l'agence d'urbanisation, ils se retrouveront au poste de police. Ils seront présentés au juge pour violation de la loi. Ça me paraît très simple. Mais là, c'est l'équipe fermée, les policiers, les gendarmes et puis les agents de la recherche publique pour appliquer une loi. C'est aussi simple que ça, monsieur.
Docteur, est-ce que vous pensez que les nouveaux paquets vont réellement changer quelque chose?
Je pense simplement. Nous avons proposé plusieurs images. Le ministère de la Santé a choisi des images. Nous l'avons aidé à tester ces images auprès des utilisateurs. Bon, il s'avère que les images qui ont été choisies figurent parmi les images qui étaient les mieux acceptées par le public. Donc, nous avons dit, en fin, si ça a permis de réduire de façon significative l'état de chez les jeunes. Et si le sujet pose, qui est le cas, parmi, mais l'objectif, on ne peut pas, a priori, se lever en disant, ça va être bon, ça ne va pas l'être, ça ne pourrait pas être urgent.
Le docteur Abdulaziz Kazi à Dakar.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur le tourisme en Afrique. Est-il un secteur d'avenir? Comment le développer? Quels sont les pays les plus courtisés et ceux au potentiel inexploité? Qu'est-ce que le tourisme apporte à nos populations? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Bénin, le chômage et le sous-emploi prennent de l'ampleur pendant que le taux de croissance est toujours à un chiffre avec des réformes économiques qui peinent à porter des fruits malgré les efforts consentis par le gouvernement. Cette situation touche particulièrement la jeunesse. Pour en parler, je vous propose d'écouter ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Selon les estimations de l'INSAE sur le marché de l'emploi, le Bénin dispose de plus de 2 750 000 jeunes qui sont au chômage et le nombre de dossiers de candidature au dernier concours d'entrée dans la fonction publique est évocateur. Parfois pour moins de 1 000 places disponibles, on enregistre près de 10 000 dossiers. Eulalie est une jeune béninoise avec en poche un master en audit et gestion des entreprises depuis 3 ans. Elle n'a toujours pas un emploi fixe. Elle parle de la mauvaise foi des recruteurs.
Vraiment le recrutement au Bénin, c'est pas du tout encourageant. On a le diplôme, mais quand tu n'as pas des moyens, quand tu n'as pas des connaissances, tu ne peux pas avoir d'emploi au Bénin.
Le taux de sous-emploi des jeunes est passé de 50% en 2011 à plus de 70% de nos jours. Lors du lancement du document de la politique nationale sur l'emploi, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales a donné quelques intentions du gouvernement. Aditya Toumatis.
Les investissements massifs programmés dans le programme d'action du gouvernement, le partenariat public-privé et les projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les programmes de préinsertion ou d'auto-emploi sont à considérer aussi bien dans leur mise en œuvre que leur suivi évaluation.
Même ainsi, les jeunes pensent qu'il y a plus de théorie que de pratique sur la question du chômage au Bénin avec l'actuel gouvernement. C'est le cas de Brice, ingénieur en télécommunication qui, en attendant de trouver affaire, est conducteur du taxi-moto.
Rien n'a encore changé. C'est toujours resté figé et rien n'a encore bougé. C'est comme si c'est la continuité dans le nouveau départ. Les jeunes continuent toujours d'attendre que le nouveau gouvernement fasse quelque chose en leur faveur.
Il serait nécessaire que le gouvernement se penche sur les questions liées à la jeunesse, confie Adrien, père de famille impuissant devant le chômage de ses 3 enfants pourtant grands diplômés.
Que le gouvernement actuel ait vraiment un regard sur les jeunes, sur l'emploi des jeunes, afin que ceux qui ont les diplômes, que ce soit académique, corps professionnel, les hommes de métier, tous puissent trouver affaire.
Et c'est pour régler le problème de l'employabilité des jeunes que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi utilise à travers le projet volontariat des jeunes pour un contrat à durée déterminée. Mais là encore, le projet semble mal ficelé, confie ici Alain, lui aussi père de famille.
Si nous prenons les jeunes qui ont été investis par l'ANPE, le volontariat, je crois que l'État peut déjà commencer par voir sous cet angle-là comment faire pour reverser ces jeunes, parce que ces jeunes ont travaillé pendant des années dans l'administration. Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stage et de les laisser 2 ans après à la maison.
Le problème du chômage au Bénin est un os coincé dans la gorge des autorités qui peinent à le résoudre. Le gouvernement actuel a fait la promesse en tout cas de créer 500 000 emplois d'ici 2021. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors, à présent, dans le sud-ouest des États-Unis, au Texas, le long de la frontière mexicaine, l'un des points de passage privilégiés pour les sans-papiers venus d'Amérique latine. Cherchant à immigrer aux États-Unis, les populations hispaniques ne sont pas les seules à tenter leur chance. À leur côté, beaucoup d'Africains s'engagent eux aussi dans ce dangereux périple. Pour nous en parler, Morgan Guiriec a joint sur place notre envoyé spécial, Arzuma Compaoré.
Alors, la plupart est arrivée par voie aérienne depuis l'Afrique, que ce soit le Bénin, l'Éthiopie, le Nigeria. Ils arrivent la plupart au Brésil et puis commencent le long voyage, en fait, pour arriver jusqu'aux États-Unis. Ils passent après le Brésil, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, pour arriver ensuite au Mexique et puis se rendre maintenant au niveau des centres d'immigration où ils demandent en fait l'asile.
Ce périple hein, est déjà difficile pour les populations latino-américaines, à plus forte raison pour les Africains.
C'est un périple mortel pour beaucoup. Certains, par manque de moyens, voient leur voyage en fait se prolonger de plusieurs mois. Certains sont obligés même de rester travailler pendant des années afin de pouvoir refaire l'argent parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Ils sont très souvent en fait dérobés. La forêt amazonienne reste quand même l'étape la plus mortelle. On a rencontré un ressortissant du Bénin. Ils ont traversé pendant 5 jours, la forêt au niveau de la Colombie, il n'y avait pas d'eau. Et ils se nourrissaient uniquement avec des biscuits qu'ils avaient pu garder avec eux dans leur sac. Il y a des familles qui viennent aussi avec leurs enfants, mais ils se retrouvent face à une situation où ils ne peuvent plus vraiment faire marche arrière.
D'autant plus qu'il y a la barrière de la langue. On parle surtout espagnol dans ces pays.
Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se débrouiller. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils apprennent quelques mots. Et c'est assez surprenant. La plupart d'eux se débrouillent très bien en espagnol. Il faut bien développer des stratégies pour survivre et créer des liens avec une ou deux personnes pour pouvoir s'en sortir lorsque, par exemple, les bandits vous attaquent et qu'il faut, il faut s'enfuir ensemble. Si vous n'avez pas le courage et que vous restez sur place pendant que les autres avancent, vous êtes perdu et puis vous pouvez rester dans la forêt pendant des jours et à tourner en rond. Il faut rester accroché aux autres.
Il y a la guerre des gangs dans certains de ces pays.
Certains cartels sont organisés aussi pour dépouiller justement ces immigrants. Quand on sait que vous êtes africain et que vous venez, vous parlez pas la langue, vous devenez une cible. La plupart se retrouvent à arriver aux États-Unis vraiment avec avec rien du tout, juste leur courage et leur espoir. Que lorsque ces réfugiés arrivent et qu'ils demandent maintenant l'asile, ils sont mis en détention en attendant que leur demande d'asile puisse aboutir. Les hommes et les femmes sont séparés parce que les femmes ne peuvent pas, selon la loi, rester en prison. Les femmes enceintes ou les femmes accompagnées d'enfants faire le sacrifice d'être séparées pendant de longues périodes avant éventuellement de pouvoir se retrouver ensemble lorsque la situation de leur demande d'asile est résolue.
Notre envoyé spécial Arzuma Compaoré. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise à nom de par Joselle Morissin. Aiden Otko était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.